La première lecture est le psaume 110. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles tes armées. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se repentit pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta main droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le deuxième texte retenu est tiré du livre de la Genèse au chapitre 14, les versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors Abraham donna à Melchisédek le dixième de tout ce qu'il avait pris. La troisième lecture est tirée de l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Les versets en sont 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Après avoir entendu ces textes, je pense que pour nous faire oublier un petit peu le goût du sang, nous pourrions chanter. Voilà, vous l'avez entendu au travers de ces textes du psaume, jusque dans le Nouveau Testament avec l'Épître aux Hébreux. Parfois arrivent dans la Bible quelques personnages qui ont une grande postérité et pourtant leur nom reste un petit peu mystérieux. Je pourrais prendre l'exemple de Rahab, par exemple. Cette prostituée qui, dans le livre de Josué, accueille des espions dans sa maison à Jéricho, les protège. Et cette prostituée, Rahab, on la retrouve ensuite dans la généalogie de Jésus établie par l'évangéliste Matthieu. Cette Rahab finit par donner naissance à Boaz, lui aussi un ancêtre lointain de Jésus. Il y a Salomon, connu de tout le monde, non universellement réputé pour sa sagesse légendaire, mais malheureusement, on n'a jamais trouvé la moindre trace archéologique de son existence jusqu'à ce jour. Et puis, aujourd'hui, on a entendu parler d'un certain Melchisédek. Rien que la sonorité est assez étrange. Il fait l'objet, comme vous l'avez entendu en Genèse, de quelques lignes seulement. Sitôt venu, déjà disparu, mais il réapparaît, puis il inspire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Vous savez qu'on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On l'a attribué très longtemps à Paul. Aucun théologien exégète aujourd'hui ne maintient cette position. Alors il faut se poser la question, puisque je commence par des remarques un peu de type textuel, de critique textuelle, pourquoi les canonistes de l'Ancien Testament, ceux qui ont mis ensemble les livres, donc les Juifs ou les Hébreux, puis les Juifs qui ont mis ensemble cette collection de livres, ont pris un tel risque en intégrant un personnage apparemment aussi important, puisqu'il va offrir un sacrifice de pain et de vin, bénir Abraham et être un roi dit de Salem, Melchisédek, alors c'est le roi de justice, et on dit il est roi de Salem, c'est certainement Jérusalem. Alors pourquoi est-ce que les canonistes n'ont pas pris certainement d'autres traditions, parce qu'on le sait depuis par l'archéologie, on a retrouvé d'autres traces. Et si elles nous sont arrivées jusqu'à nous, notamment par les rouleaux de Qumran, on ne comprend pas bien pourquoi ils n'ont pas développé le personnage, ce personnage aussi important qu'est Melchisédek. Il faut attendre effectivement l'Épître aux Hébreux pour en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter un petit texte comme ça ? Quelques lignes de Genèse qui évoquent surtout, vous l'avez entendu, c'est pour ça que j'ai choisi le cantique des batailles, enfin dit des batailles, des guerres entre nations et puis ce surgissement très bizarre de Melchisédek. Étrange encore est la rencontre qu'il peut faire avec Abraham. Abraham, lui, nous est plus connu. Il est l'objet d'une saga complète, on peut l'appeler comme ça, dans le livre de la Genèse. Et on a un personnage qui est assez cohérent. On le connaît nomade, riche nomade, certainement à la tête de plusieurs troupeaux et donc de plusieurs bergers. Je ne dénombrerai pas les brebis, les bœufs, les ânes, mais aussi les serviteurs. 318 de ces braves serviteurs à sa disposition. C'est une belle PME, des servantes évidemment. Et puis on met derrière les servantes les ânesses et les chameaux. Donc comment ces deux personnages en viennent à se rencontrer pour créer une petite scénette ? Un roi qui vient se présenter devant un nomade qui est vainqueur de tribus hostiles ou au moins avec lesquelles il est en compétition. Alors, si nous connaissons à peu près Abraham à l'époque, on a ce Melchisédek, roi de Salem, comme je l'ai dit, de Jérusalem, certainement qui gouverne les tribus, ou en tout cas qui dirige les tribus de la région, éventuellement souverain d'une capitale réunifiée, ça serait à vérifier cette fois. Donc certainement les rédacteurs de Genèse nous donnent quand même une petite indication. Il serait cette fois dans la lignée, mais en précédent, de David et Salomon, pour qu'il soit aussi important. Il est aussi appelé prêtre du Très-Haut, un dieu, un El, en hébreu, dont on entend parler pour la première fois, au singulier, après avoir entendu dans le début du livre de la Genèse, un Elohim, au pluriel. Il est créateur du ciel et de la terre. Ici, El est décrit comme maître, seigneur, possesseur de la terre et du ciel. Alors, est-ce qu'on peut spéculer déjà une autre fois sur cette rencontre ? Abraham, vous l'avez déjà entendu, répond à l'appel de Dieu qui lui dit en hébreu « Lech Lecha »« Va vers toi » ou « Va pour toi » les deux traductions sont possibles. Et il se déplace, obéissant à l'ordre de Dieu, d'Our, la ville d'Our en Chaldée, jusqu'en Canaan. Et on peut imaginer qu'il se soumet là à un dieu plus local, qui se nommerait El Elyon, El El, le dieu très haut. C'est une hypothèse. Tous ces textes ne peuvent donner qu'à spéculation. On peut lire beaucoup de littérature, on ne peut qu'avancer des spéculations et vous m'autoriserez ce matin à vous offrir mes hypothèses, qui sont aussi des questionnements, bien entendu. Donc, est-ce que ce déplacement, ce changement de territoire, ne correspond pas à l'adoption du dieu local de Canaan ? Vous savez, dans l'élaboration des hommes, pour marcher vers l'unicité de Dieu, bien des traditions nous donnent des exemples comme celui-ci. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous êtes frappé d'entendre ce nom Elohim au pluriel, Yahou, le fameux nom imprononçable, seuls les théologiens l'appellent Yahou. Vous savez que les Juifs lui substituent le mot Adonai, qui veut dire lui-même le Seigneur, Shaddai, le puissant, ou El Roi, celui qui voit tout. Dans la marche vers l'unicité, dans l'islam par exemple, qui, vous savez, quand même, est extrêmement attaché à ce principe d'unicité, on a quand même une sorte de dérive. On donne à Dieu 99 dits noms de Dieu ou qualificatifs de Dieu. Et certains, bizarrement, trouvent des échos dans l'hébreu. Même Allah, en fait, n'est jamais que le même terme qu'on trouve en hébreu. C'est très proche d'Elohim. Alors, c'est une interrogation que je pose avec vous, de type anthropologique. On a un Abraham qui va nous faire un principe de justice au nom de Dieu. Je crois que c'est un des personnages dans la Bible qui porte mieux la marque de la justice. Être juste, c'est à la fois résoudre avec justesse une situation, mais aussi faire preuve et œuvre de justice en même temps. Abraham n'est pas que le seul serviteur de Dieu, obéissant, il prend des initiatives. Vous voyez, dans le conflit qu'il a opposé avec les gens de Lot, de sa famille, Abraham ne prend le risque d'être juge et parti. Il est équitable dans les deux cas. Il ne veut pas qu'il y ait de dispute, dit-il, dans son groupe. Non seulement il partage le territoire avec son parent, Lot, mais il le laisse même choisir quel côté Lot va pouvoir s'approprier. Il a la primeur. Alors que Lot choisit les plaines, Abraham prend les montagnes. Ce n'est pas les régions les plus pratiques pour faire paître des troupeaux aussi nombreux. Mystère. Aussi, vous savez qu'Abraham intercède pour que Sodome ne soit pas anéanti au nom de juste qui y vivrait. Voilà une figure de justice. Alors, que peut-on faire de ce Melchisédek et de cette rencontre avec Abraham ? Visiblement, cela ressemble à un jubilé. D'ailleurs, dans le texte de Qumran dont je parlais, il est clairement question de jubilé. Un jubilé, vous savez, c'est toutes les périodes d'environ 50 ans, il y a une remise partielle des dettes ou complète des dettes et une redistribution des terres pour faire vivre la communauté, pour qu'elle se pacifie elle-même, évidemment sous le regard de Dieu. D'ailleurs, dans le texte de Qumran, c'est clair. Melchisédek est chargé du jubilé. Alors dans ce récit où les têtes tombent, où les corps donnent profusion de sang, on peut imaginer que Melchisédek et Abraham font œuvre de justice. Ils seraient dans cette rencontre, tous les deux en fait, l'archétype d'un pouvoir bien exercé. Vous savez que dans la Bible, généralement, les rois, y compris les plus prestigieux comme David et Salomon, finissent tous par dévier, dériver, faire des erreurs et toujours étonner Dieu. Et parfois, ils en payent le prix. Alors, si on continue sur cette fibre ou cette veine, dans cette veine anthropologique, on a l'impression qu'il y a une distribution des fonctions. Melchisédek est roi, il est roi de justice. Qu'un roi exerce la justice, ce n'est pas contradictoire, on a bien des exemples. Mais il est roi et prêtre. Et puis pas seulement prêtre, mais il est grand sacrificateur. Donc une fonction aussi de guerrier, qui est liée à la défense des peuples. Et puis une troisième fonction qui est dite selon, vous savez, les travaux de Georges Dumézil, les trois fonctions, la fonction sacerdotale, la fonction guerrière, et la troisième d'entre elles, c'est une fonction de production liée à la fécondité. Je me suis beaucoup gratté la tête pour savoir si on ne pouvait pas distribuer ces trois fonctions sur les deux personnages. Et si cette scénette ne marque pas justement la liaison qui est faite entre tous ces aspects. Abraham a beau être puissant, avoir des tas de serviteurs, des tas de troupeaux, il n'est qu'un grand nomade, commerçant et étranger qui entre en Canaan. Et tout d'un coup, il se voit retrouvé par Melchisédek, qui le bénit, qui le fait rentrer dans une certaine forme de justice divine et qui lui offre ce premier sacrifice. Là, je voudrais encore dire un mot, le sacrifice, pour nous du pain et du vin, nous qui allons, surtout en ce dimanche de Saint-Sacrement à l'Église, nous avons une vision très claire, peut-être je suis un petit peu aventureux en disant ça, de ce qu'est un sacrifice. Peut-être on peut imaginer que ce texte aussi marque la fin d'un sacrifice de bête. Beaucoup de sang avec les guerres, mais peut-être déjà trop de sang dans les temples et les hauts lieux. Et donc on commence à dire, c'est mon hypothèse, changeons la méthode. Un pain avec du pain et du vin, on fait déjà un morceau du banquet. Avec du pain et du vin, on peut communier sans avoir à égorger des bêtes. Voilà l'autre interrogation que j'ai. Parce que vous savez, certains pensent que justement Abraham, quand il veut bien obéir à Dieu pour sacrifier son fils, on lui substitue un bélier. Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle étape ? C'est ce que je crois ce matin. Voilà un petit peu les interrogations que je voulais partager avec vous. Elles sont un petit peu contraignantes, puisque c'est les textes du jour. Elles sont un peu étranges. Mais après vient le Christ. Et là, on pourrait ajouter toutes les traditions d'Église, les pères de l'Église qui se sont écharpés avec des... C'est pourquoi nous sommes tous appelés à faire de la spéculation, de la théologie. Je suis ici au foyer de l'âme. On a toujours aimé ça, au foyer de l'âme. Ne pas s'interdire de se poser des questions dans les limites du raisonnable, évidemment. Et c'est une Église, je ne sais pas quelle est la tradition actuelle. Moi, je l'ai connu depuis quoi, 30 ans. Je reconnais quelques visages hein, très familiers. Bon, ce n'est pas une église des plus sacramentaires. Et on a raison de l'être ou de ne pas l'être. puisque vous voyez bien au travers de ces textes que j'ai choisis, c'était un petit peu ardu à entendre parce que c'est un peu sec, mais que les biblistes, les canonistes ne se sont pas privés, soit de développer des personnages, soit de les laisser un petit peu dans une lumière obscurcie. Alors voilà, toutes ces questions. Qu'est-ce que nous voulons faire d'un sacrifice? Comment concevons-nous le sacrifice, la Sainte Cène? Et de là, l'autre grande question qui vient derrière, qu'est-ce qu'un prêtre? Là aussi, bien des interrogations ont été posées au foyer de l'âme. Parfois des adaptations de vocabulaire, pas seulement au foyer de l'âme d'ailleurs. Mais bon, je suis ici, il faut bien que je fasse un petit peu de publicité pour ce temple magnifique. Il faut se poser ces questions, puisque toutes nos églises, elles sont moins remplies qu'il y a 50 ans, 60 ans. Qu'aujourd'hui, vous savez, une partie de mes activités, c'est d'enterrer des catholiques qui ne trouvent pas de prêtres pour les enterrer. Ça indique quand même que le mouvement de population est assez grave. Les prêtres sont débordés en desservant plusieurs églises. Alors qu'est-ce qu'un prêtre? Et vous voyez que moi, vous entendez à la radio, à la télé ou dans les journaux, vous lisez que l'Église catholique romaine se pose bien des questions. Faut-il ordonner maintenant des veufs? Des divorcés, ça serait difficile, parce qu'il y a rupture de sacrement. Les protestants ont longtemps réfléchi, puis maintenant c'est une banalité absolue que d'avoir des femmes pasteurs. Il y a eu le même débat dans l'église anglicane et épiscopalienne. Aujourd'hui, on peut avoir des pasteurs homosexuels, ça ne choque plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller fouiller dans la Bible comme on l'a fait ce matin, c'est d'en tirer une inspiration, ou bien, comme je le fais ce matin, de vous interpeller sur la difficulté d'entrer dans ces textes, de les lire avec un esprit vraiment critique, sans faire de folie, bien sûr, hein, sans aller réinventer la Bible elle-même. Il y a un grand nombre de contenus. Mais si je reviens à Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, si vous prenez, par exemple, dans la tradition catholique romaine, on rentre dans cet ordre par le baptême, autre sacrement qui nous est commun. Baptême qui est dit, donné dans toutes les églises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez déjà une première entrée dans le sacerdoce universel. Et puis tout d'un coup, l'Église, certaines églises ont choisi de se réserver des fonctions, de les rendre encore plus sacrées en faisant une deuxième entrée dans la vie sacerdotale par une ordination. Ordination des prêtres. Qu'ils soient catholiques, anglicans comme moi, épiscopaliens, pour d'autres amis ici, orthodoxes, ça ne va pas de soi. Parce que c'est cette formule qu'on utilise pour ordonner des prêtres ici et là. Or, aujourd'hui, nous avons besoin non seulement de prêtres, mais nous avons besoin que chacun et chacune ici soit un petit peu prêtre à sa manière. Exégète, théologien, prédicateur, chanteur, musicien, pour que nos églises aient encore un visage. Demain, qui sera le visage de l'Église? Avec quel message? Avec quelle complexité de message? Moi, je veux bien faire un culte de louange. Hein? Il suffirait d'ailleurs de m'entendre avec l'organiste, nous pourrions passer 2 heures. Moi, j'aime beaucoup l'orgue, évidemment, vous le savez. Donc on pourrait passer 2 heures à chanter Dieu, sa bonté, sa fidélité, et nous en serions très heureux. Cependant, même si ces cantiques sont extrêmement bibliques dans le fond, nous perdrions la texture de ces textes, la rugosité de ces textes. Alors je vous invite à souvent ouvrir des lectionnaires et à prendre un passage que vous connaissez moins, et puis de vous y frotter. C'est un bel exercice pour voir que tout ne se résume pas dans des formules que nous employons avec trop de facilité. Voilà, chers amis, ce que je voulais dégager avec vous de ce Melchisédek, roi de justice, grand sacrificateur, et qui nous invite à entrer dans son ordre. Amen.